Accès libre.
Vendredi 19 décembre, dernière édition d'Accès libre pour 2014. Et à l'origine, lorsqu'on avait commencé à planifier la liste des co-animateurs tristes, ben, je me disais, ah, ben, ça va être sympathique, décembre. Au moins, je vais voir Isabelle Ducharme trois fois. Finalement, je dois me contenter de sa présence aujourd'hui. Entre autres, elle n'y était pas la semaine dernière. Je n'y étais pas il y a deux semaines. Heureux de vous retrouver, Mme Ducharme.
Plaisir.
Yeah. Isabelle, on part avec une controverse. Il y a le jeune Dakota de 8 ans à Kansas City qui s'est fait enlever sa canne blanche. En fait, c'est le chauffeur d'autobus scolaire qui l'a enlevé parce que, semble-t-il, qu'il était un petit peu dissipé. Il aurait frappé un élève avec sa canne. Alors, l'école lui a enlevé sa canne et lui ont donné une frite à piscine. Vous savez, les longues mousses.
Mais voyons.
Oui. Et ben là, la recherchiste, Mme Gargano, qui est notre bonne amie, était outrée ce matin.
Avec raison.
Ah oui? Mais moi, je me disais, voyons donc, s'il ne sait pas quoi faire avec une canne, il faut qu'il réfléchisse. C'est pas une arme, c'est un outil d'autonomie.
Oui, mais c'est une éducation à faire, pas un... Je vois vraiment pas où on peut faire un comparatif. C'est de mal partir dans la vie. Oui, peut-être qu'il a mal compris l'utilité, mais... Qu'est-ce qui a été, comment, à quel point il a été provoqué avant, on le sait pas.
Bon,
on n'a pas tout l'ensemble de l'histoire.
C'est sûr, il est aveugle, ça peut pas être de sa faute.
Non, mais quand même, moi, je serais allée avec, ouais. on va jaser, on va s'expliquer les vraies affaires, mais je vois vraiment pas comment on peut remplacer un par l'autre.
Semble-t-il que l'école a émis un communiqué de presse hier pour dire que c'était une erreur et on lui a remis sa canne, mais l'histoire ne dit pas quand est-ce qu'on lui a enlevé. Alors, déjà... Un petit nuage sur le bulletin du journaliste, mm-hmm. parce qu'il me semble que c'est une information assez importante. T'sais, c'est-tu deux heures ou deux semaines qu'on lui a enlevé sa canne blanche? Mais bon, semble-t-il que l'école, elle aussi, était d'accord avec vous, que c'était une bourde et que c'était peut-être pas la meilleure façon d'éduquer un enfant. On va jaser, vous et moi, on a pris part à une expérience. On n'était pas ensemble. Ça arrive souvent, Mme Ducharme, qu'on fait les mêmes affaires.
On croit qu'on a les mêmes intérêts.
Ben oui, on va passer dans le même film éventuellement. Donc, Portrait Montréal.
Oui.
Alors, il y a deux des trois gars qui vont venir nous en parler. Quelqu'un que vous connaissez bien, vous qui êtes président du conseil d'administration chez Kéroul. Laure qui vient nous expliquer un peu comment sont évalués les différents sites. Et je ne sais pas si c'est Mme Durand qui a fait les 8000, mais vous avez déjà plus de 8000 sites d'évalués. Ça m'a renversé quand j'ai vu ça. Et on va terminer avec la personne responsable de l'accessibilité universelle du côté de Gatineau. Eux aussi se sont mérités un prix à part entière de l'Office des personnes handicapées au début du mois. Puis j'avais vraiment envie de savoir, ben, Colin, qu'est-ce qu'ils ont compris que d'autres villes n'ont pas compris? Ben, entre autres, eux aussi... ont nommé, il n'y a pas si longtemps, quelqu'un responsable de l'accessibilité universelle. Déjà, je trouve que ça part bien.
Absolument.
Bon, comme vous êtes là et qu'on n'a pas eu le temps de le faire avec Marianne et vous, parce que vous étiez jusqu'aux oreilles dans les prises à part entière au début du mois, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau du côté de Kéroul, au lendemain du sommet, ou en tout cas, disons qu'on est rendu au surlendemain.
Oui, au surlendemain, mais quand même, c'est encore au cœur de nos actions, au cœur de nos décisions. On en parle encore à l'international pour l'ensemble de ce qui a été discuté au sommet comme tel.
Oui, sommet Destination pour tous, qui était un sommet sur le tourisme accessible à travers le monde, à l'international, et ça se passait chez nous en octobre.
Effectivement, il y avait trois piliers de discussion, soit le tourisme, le transport et la culture. Et on a toute cette information-là est disponible sur le web si les gens veulent encore savoir qui a parlé de quoi à l'international. Mais c'était quand même 35 pays et plus de 120 conférences. Et de ça est aussi ressorti la déclaration Un monde pour tous, une déclaration d'engagement qu'on a demandé aux organismes, aux individus, aux gouvernements à travers le monde à s'engager à faire du développement de l'accessibilité touristique, à s'engager dans un sens positif, mais tous avec essayer de développer un même langage, une même façon d'évaluer et de parler d'accessibilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit encore des retombées. D'ailleurs, le Financial Post a sorti un article hier où on mentionnait encore, on parlait d'accessibilité en général. On a interviewé différentes personnes, mais on se référait aussi à l'importance de la discussion qui a eu lieu au sommet mondial Destination pour tous. Donc, si les gens veulent en savoir plus, destinationpourtous2014.com.
Vous mentionniez une nouvelle entente, Design for All. De quoi s'agit-il?
En fait, c'est une fondation qui s'appelle effectivement Fondation Design for All, qui est basée en Espagne et qui, eux, se dévouent à l'importance de développer, j'ai envie de dire, des choses, parce que c'est très large, qui soient pensées pour tous. Donc, on parle autant de services, de produits, de l'emploi à des documents, à des établissements, mais avec un focus pour tous. Et ça, ça veut dire autant la personne vieillissante, la personne, l'enfant, la personne handicapée, vraiment tout le monde. Et on y ajoute même, il faut qu'il y ait un souci de la sécurité, la santé. Donc, il faut que ce soit vraiment global.
Mais je comprends mal, c'est comme un sceau que l'on appose?
Oui.
OK.
Et ils remettent, bien sûr, des prix annuellement. Et donc, ils ont des représentants dans différents pays en Europe, mais ils n'avaient pas de représentants pour l'Amérique. Et suite au sommet, ils ont demandé à Kerul, en fait, ça a été décidé d'un commun accord, que Kerul devienne le représentant ou la personne qui propage la bonne nouvelle de Design for All, de la Fondation Design for All en Amérique.
Est-ce que ça veut dire que Kerul devient comme membre du jury?
Éventuellement, ça pourrait vouloir dire ça. Je ne connais pas encore leurs critères pour chercher les membres de jury. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va être mis toujours à l'heure du jour des réunions. On va savoir qu'est-ce qui se passe et on va pouvoir aussi contribuer avec nos bons coups ici, là, locaux.
Vous vouliez parler de taxi, de la Société de transport de Montréal?
Bien, c'est parce que souvent, les gens nous demandent qu'est-ce que vous faites concrètement. On sait que vous évaluez des établissements. Bon, de plus en plus de gens connaissent la route accessible. Mais je trouvais ça important aussi de mentionner que Kerul s'implique dans beaucoup de comités qui sont soit locales ou provinciales, mais justement pour s'assurer qu'on a des représentants qui comprennent les besoins en accessibilité, autant dans le service de taxi, le service de transport local comme la STM. On donne aussi des formations. Avant, on donnait surtout des formations directement dans les hôtels, dans les musées, etc. On continue à faire la formation à l'accueil dans ces endroits-là, mais on fait aussi on annonce des formations publiques. Donc, toute personne qui travaillerait avec le public et qui voudrait en apprendre un peu plus sur comment servir la clientèle avec des limitations, bien maintenant, c'est ouvert aussi, là, plus large que juste dans un établissement en particulier.
Est-ce que c'est possible pour les gens de la grande région, de l'extérieur de la grande région de Montréal, de profiter de ces services-là?
Absolument.
Vous déplacez, oui?
Oui, oui. Justement, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va dire, je ne sais pas moi, on fait une formation à Sherbrooke. Donc, tous les gens qui sont dans la région qui peuvent se rendre à Sherbrooke et qui veulent s'inscrire, ça nous fait plaisir de les accueillir. C'est plus facile quand il y a une demande, parce que là, on sait qu'on aura un minimum de personnes. Jusqu'à maintenant, en région, j'imagine justement parce qu'il y a plus de distance entre les villes, c'est plus difficile de faire des formations où on a beaucoup d'inscrits. Les grands centres urbains sont plus faciles. Mais oui, on se déplace en région.
Combien de temps à l'avance? On peut, faut réserver, puis ça s'organise rapidement ou...
S'il y a une demande, oui, on peut le faire facilement, en autant qu'on trouve deux formateurs de disponibles au même moment. Mais généralement, à un mois de préavis, c'est pas difficile. Ça dépend encore là, dépend de la région et du comment loin c'est de Montréal ou de Québec. Parce qu'on a des gens basés à Montréal, à Québec, puis à Gatineau en termes de formateurs.
Okay.
Fait que, il faut, plus, bien sûr, plus on est loin de ces endroits-là, mais là, il faut planifier peut-être un peu plus à l'avance.
Ouais. Je reviens sur les taxis. Bon, je vais m'attarder à Montréal parce qu'on entend beaucoup M. Coderre vouloir un petit peu revamper donc, la réputation, l'allure des taxis. Est-ce que, justement, la formation, la propreté, l'accès, le type de véhicule, est-ce que Kéroul fait partie des gens que l'on approche pour évaluer et s'assurer que cet aspect-là va également faire partie du nouveau taxi montréalais éventuel?
On fait partie du processus de décision. On n'est pas l'organisme, on n'est pas la personne qui va former les employés, mais M. Leclerc est maintenant membre du conseil d'administration du bureau de taxi.
Oh, wow, OK.
Et on a eu une très belle collaboration quand il est venu temps aussi de préparer un papier à présenter à l'hôtel de ville sur ce que devrait être le taxi accessible.
Mm-hmm. Ouais.
Donc oui, il y a quand même une belle écoute. C'est sûr que ça demande toujours du temps et de l'argent et tout, mais on sent qu'il y a quand même un dialogue.
Route accessible?
Oui, en fait, je voulais juste mentionner que oui, la route accessible, on essaie à chaque année, on fait une nouvelle édition au printemps. Mm-hmm. Donc, les gens peuvent voir les nouveaux établissements, parfois les nouvelles régions, les nouvelles activités qui peuvent se présenter. Mais on a aussi revampé le site web pour qu'il soit plus attrayant, qu'il y ait plus d'informations sur les activités proposées. Donc, il y a plus de détails aussi dans les fiches d'entreprise. Donc, c'est quand même assez intéressant là, comme nouveauté. Puis ça, pour ceux que ça intéresse, c'est beaucoup plus vivant comme site web.
Vous avez inscrit dans les petites notes, ça me fait toujours peur, probablement parce que j'ai un cœur de pierre, mais vidéos inspirantes.
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Mais en fait, c'est de donner le goût. Tu sais, c'est pas juste de montrer.
Okay.
On veut pas montrer l'établissement avec ses portes ouvertes. On veut qu'on voit des gens en action. On voit, tu sais, si on parle du mont qui a du ski adapté, mais on voit pas juste le mont puis le ski à côté. On voit quelqu'un qui est en train d'en faire.
OK. J'avais juste peur qu'on voit le propriétaire d'un bed and breakfast en fauteuil roulant sur la toiture en train de déneiger son toit là, ou quelque chose comme ça.
Okay. Pas tout à fait.
Bonification de la fiche des entreprises, membres et plus encore. Donc, ça, c'est sur le site.
Oui.
Vous disiez, bon, un nouveau titre, guide d'accessibilité accessible pour tous?
Oui, en fait, c'est que c'est un autre aspect que les gens connaissent peut-être moins de Kéroul, c'est qu'on essaie de développer des outils pour aider les entreprises qui veulent se rendre accessibles à se rendre accessibles. Donc, il y a un nouveau guide qui est sorti pour les propriétaires de pourvoiries pour leur expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent se rendre accessibles, qu'est-ce qui pourrait être les outils qui les aideraient à se rendre accessibles et bien sûr de rappeler qu'on fait toujours du service conseil, donc on peut se déplacer et aller nous-mêmes évaluer et donner des conseils. Mais au minimum, ils ont au moins un guide papier maintenant qu'ils peuvent utiliser, qui est aussi disponible sur le web. Donc, ils peuvent déjà voir, bien oui, ce serait possible. Quand je vais faire mes prochaines rénovations, je vais inclure l'accessibilité et évaluer donc à quel point ça demanderait 1, 2, 3 ou 15 étapes.
Là. Je disais tantôt bon, que Kéroul avait passé, bon, pas encore au peigne fin, mais on parle de 4167 établissements qui sont toujours, disons, fonctionnels, des 8143. C'est quoi, c'est 35 ans qui roule?
Oui, 35 ans cette année.
OK.
En fait, M. Leclerc a fêté ses 60 ans de vie et ses 35 ans de fondation de son organisme le même mois cette année.
A-t-on une idée, Isabelle, d'où on espérait être il y a 35 ans? Est-ce qu'il y avait, disons, un plan de développement pour graduellement arriver à tel ou tel endroit? Ou disons,
on s'attendait définitivement à être rendu beaucoup plus loin qu'on l'est.
Okay.
On est encore très faible en taux d'établissement accessible. On ne pensait pas avoir à se battre encore autant pour développer l'accessibilité parce que quand on pense qu'il y a encore des nouvelles constructions qui se font, sans que les minimums d'accessibilité soient respectés. Et on sait que les minimums, c'est pas pour le confort, là. C'est juste pour dire qu'on est capable d'entrer, d'utiliser, de se promener dans le corridor, là. Fait que c'est définitivement décourageant quand on pense qu'on aurait voulu être rendu plus loin, mais en même temps, on a fait des grands pas et on a de plus en plus d'écoute. Donc, on sent qu'on est dans la bonne voie, ouais. Mais jamais à la vitesse qu'on pensait.
Par ailleurs, je disais que vous avez pris part à Portrait Montréal, ce projet mis de l'avant par trois gars. On vous a posé quelques questions au métro L'Assomption. Vous n'y allez même pas au métro L'Assomption. Qu'est-ce que vous faisiez là?
Bien, j'allais justement dénoncer le fait que je ne peux pas l'utiliser. Moi, je trouve ça tellement déplorable d'être à 10 minutes d'une station de métro puis de ne pas pouvoir partir quand je veux, comme je veux, puis revenir à l'heure que je veux.
On en parle avec Thibault Caron et Michael Timer dans quelques mesures. Alors, ce projet, finalement, Portrait Montréal, je suis content, Isabelle, que c'est vous qui meniez cette entrevue-là, parce que je pensais comprendre, moi, dans ma tête, lorsque Michael m'a appelé, je pensais que nous faisions le répertoire et le commentaire autour des 68 stations de métro. Là, j'ai vu Jacques Languirand, voyons donc, Jacques Languirand prend-il le métro? Expliquez-nous ça, là, avec nos invités.
Allez-y. Donc, le portrait de Montréal, de ce que j'ai compris, puis vous me direz ensuite si j'ai bien compris. L'idée était d'abord générale et éventuellement, vous avez fait un angle accessibilité du métro.
Oui, c'est ça. En fait, le concept de portrait de Montréal, c'est qu'on se balade dans les rues à peu près tous les jours, puis on arrête des inconnus et on discute avec eux, on prend une photo et on partage la photo, toujours accompagnée d'une petite histoire, d'une citation, d'un extrait de la conversation qu'on a eue avec cette personne-là. Et il y a une couple de mois, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Kevin, qui est un jeune homme de 24 ans qui est handicapé depuis toujours, dans le fond. Puis il nous a parlé du problème d'accessibilité, qui est un problème que nous, on ne connaissait absolument pas, parce que on n'a pas de personnes qui vivent avec une limitation de mobilité dans notre entourage. Donc on a découvert cette situation-là, on a découvert ce problème-là, et il nous a proposé de mettre une lumière sur ce problème-là en rencontrant différentes personnes qui sont affectées par le manque d'accessibilité.
Mais quand vous vous promenez, vous êtes trois. Donc, les trois, vous vous promenez avec chacun de votre côté, avec votre caméra, jamais les trois en même temps. Ça ferait peur aux gens.
Exactement.
Et vous n'avez pas une cible particulière. Thibault, vous faites chacun votre tour aléatoirement. Vous ne dites pas, moi, aujourd'hui, je m'attarde plus, sur les femmes, sur les hommes, sur les jeunes. Ou...
Non, c'est ça. On n'a pas de critères de sélection. On va vers les gens qui attirent notre regard, soit parce qu'ils ont l'air d'avoir un peu de temps, soit parce qu'ils ont un sourire au coin des lèvres, ou parce qu'il y a quelque chose qui nous attire dans leurs vêtements ou leur attitude. Mais il n'y a aucun critère de sélection.
Mais... Thibault, on dit... Caron, ça va bien, mais Michael, on dit Timer, c'est
Timer,
ça?
Michael Timer. Timer.
Bon, d'abord, est-ce que cette idée-là vous est venue parce que vous aviez, un travail de session en photographie à faire? Et deuxièmement, moi, il n'y a personne qui m'a arrêté sur le trottoir. On m'a sollicité à même mon courriel.
C'est vrai. En fait, alors pour répondre à la première question, non, ce n'était pas un travail de session ou un travail de cours. C'était vraiment une envie. Ça faisait longtemps qu'on suivait en fait le blog Humans of New York, ouais. qui est exactement le même concept à New York, et qu'on s'est dit, ben, ça doit être le fun à vivre comme expérience, d'aller rencontrer du monde tous les jours. On aime la photo. Essayons de reproduire la même chose à Montréal. Puis ça a marché, ça a levé, fait qu'on a continué. Et effectivement, dans le cadre de l'accessibilité, on a fait un appel à témoins, entre guillemets. On a demandé s'il y a des gens qui étaient intéressés à participer à ce projet-là, parce que c'est plus que des rencontres à l'impromptu. C'est vraiment un projet à moyen terme. L'idée, c'est de photographier une personne différente devant chacune des 68 stations du réseau du métro de Montréal. Parce que le métro, en fait, on s'en sert un petit peu comme symbole. C'est ce qui donne l'accès à toute la ville, finalement. Le transport en commun, c'est ce qui débloque l'accès à la ville. Et donc, on trouvait que c'était un symbole fort, non seulement pour ça, mais aussi parce que tout le monde peut se reconnaître dans le fait de prendre le métro. Et que du coup, les personnes qui n'étaient pas affectées par le manque d'accessibilité pourraient se faire une idée de « Ok, ouais, effectivement, si je ne pouvais pas prendre le métro, ça changerait pas mal de choses dans ma vie. »
Oui, puis comme j'expliquais à Michael, dans mon cas, j'utilisais le métro à tous les jours avant mon accident. Et donc, je comprends vraiment la différence, la flexibilité du métro, le bonheur de ne pas dépendre de la circulation, et etc., malgré qu'il y a souvent des pannes maintenant depuis le nombre d'années. Puis ce que Michael est très gentil de ne pas dire aussi, c'est que c'est de ma faute si vous avez fait partie de ce projet, Luc, parce que c'est moi qui ai suggéré... Ben, je vous ai quand même posé la question avant,
oui,
là,
ouais. dire non,
mais
là.
C'est quand même de ma faute.
Mais je posais la question parce que si les gens... je ne sais pas, voir votre page Facebook, on peut peut-être s'offrir comme candidat s'il y a une station de métro oui. Près de chez soi qui n'a pas été encore utilisée.
Est-ce qu'il vous en reste encore beaucoup à faire?
Il nous reste une douzaine de stations à couvrir sur les 68.
Ouais. Plus centrale, plus dans les extrémités?
Oui, c'est un peu sur les extrémités. Partout.
OK.
Il y en a vers Angrignon, aux extrémités surtout.
Et donc, votre site web, il est global. Est-ce que vous avez réservé... Moi, quand j'ai essayé de fouiller un peu, vous n'avez pas réservé une section vraiment pour les gens qui ont fait partie du projet Accessibilité Métro?
Non, parce que le but, c'est justement pas de faire... sur Portrait de Montréal, pour l'instant, on partage pas les histoires sur l'accessibilité, on partage les histoires humaines et personnelles que toutes les personnes qu'on a rencontrées nous racontent. Donc, parfois, ça touche à leur handicap, parfois, absolument pas. Et le but, c'était pas justement de mettre ces gens-là à part dans une section. C'est pas les mettre de côté, c'est de les intégrer parce qu'ils font partie, au même titre que n'importe qui d'autre, des gens qu'on a rencontrés dans les rues. Ils font partie de Montréal de la même manière. Donc, pour l'instant, toutes les photos qui parlent vraiment de l'accessibilité, elles sont dans un coin. On les a mises de côté et on les sortira quand on aura fini les 68 stations de métro.
Mais okay. J'aime l'approche.
Oui, non, c'est le fun parce que justement, c'est ouvert plus à tous et tout le monde ont plus à un moment donné ou à un autre tombé sur la photo, pas juste parce qu'ils vont particulièrement sur cette partie-là du site. Ouais. Et donc, vous faites ça aléatoirement. Est-ce que ça veut dire que vous faites ça en allant travailler ou ça devient tellement prenant que pour vous, c'est tout ce que vous pensez, c'est qu'il faut que je sorte dehors, prendre des photos, rencontrer des gens?
C'est devenu notre travail, en fait. 90% de notre temps, c'est de Montréal. Oui. Donc, chaque jour, on se lève en pensant à ça.
Ouais. Non, on n'a pas de job à côté. Bon, c'est sûr qu'on prend des petits contrats de photographe à droite, à gauche, à la pige, parce qu'il faut payer facture. Mais sinon, on fait du portrait de Montréal à temps plein.
Et est-ce qu'éventuellement, vous avez l'idée de vouloir, je ne sais pas moi, avoir des commanditaires, des choses comme ça sur votre site web pour faire quelque chose de qui vous rapporte quand même un peu d'argent, là?
Pas directement sur la page, parce qu'on veut que ça reste indépendant et apolitique le plus possible.
Okay.
Donc, on cherche des contrats à côté en tant que pigiste, mais ce ne sera jamais directement lié à Portrait de Montréal en tant que tel.
Quand jugerez-vous que ce sera terminé? Je veux dire, quelle est la fin de ça? Parce qu'on est autour de 2 millions là, dans la région.
Oui, eh ben, c'est ça. Une fois qu'on aura fait les 2 millions, on pourra dire qu'on a fini, qu'il n'y a plus personne à photographier. Non, il n'y a, y a pas de fin. Je pense que c'est... on va continuer jusqu'à temps qu'on ait le goût de continuer, je pense.
Puis est-ce que c'est possible de passer le relais à d'autres à un moment donné ou d'augmenter les effectifs?
C'est possible, oui. On a plusieurs photographes qui nous ont contactés en nous disant qu'ils seraient intéressés à le faire. Nous, on a toujours dit que pour l'instant, on ne veut pas on n'est pas prêt à dire, OK, bah, c'est bon, t'embarques avec nous, puis let's go, on te donne accès à la page Facebook, puis tu peux partager ce que tu veux. Mais par contre, on a toujours dit, écoute, si ça tente de faire des portraits en tant que photographe, bah, vas-y, on t'encourage à aller en faire, envoie-nous les photos, puis les histoires que tu as collectées, ouais. Puis ça va nous faire plaisir de les partager, pour autant que ça respecte un petit peu l'approche de Portrait de Montréal. Mais à date, il n'y a qu'un seul photographe qui finalement... En fait, non, deux photographes qui nous ont envoyé des photos. Les autres se disent intéressés. Ouais, puis finalement, ouais. Au moment de passer le cap, puis d'aller dans la
rue. Ça arrive, ça.
Oui,
ça.
Ouais. Ouais, puis j'imagine qu'on ne veut pas perdre le contrôle non plus. Si on commence à donner l'accès à trop de gens ou à dire à trop de gens, ben oui, tu peux embarquer dans le projet. Une fois qu'il est embarqué, on se sent un peu mal de dire, ben non, sais-tu, finalement, ça ne marche pas.
C'est pas si bon que ça.
Puis j'imagine qu'à la base, vous étiez trois amis qui se connaissiez.
Oui,
ou...
exactement.
Ouais. L'êtes-vous encore?
C'est marrant, on nous pose souvent cette question. Mais oui, oui, toujours. Oui, oui.
Est-ce que vous avez une idée, la Humans of New York, ça fait combien de temps qu'eux roulent là-dessus?
4 ans et demi, 5 ans.
Ah, quand
peut-être.
Même. Ouais, moi, ça fait peut-être 2 ans, j'étais au courant, mais c'est quand. Donc, ouais. Vous aviez encore le temps d'en faire plusieurs, malgré qu'on s'entend qu'il y a plus de possibilités à New York ou plus de gens qui roulent à New York.
Oui, ouais, mais encore que, comme disait Luc, on est 2 millions.
Ouais.
2 millions.
Ah, ils sont... C'est ça, plus.
Oui, ouais, mais enfin, avant de faire le tour des 2 millions, on va déjà...
Puis en faisant ce que vous faites en ce moment avec le projet spécial sur l'accessibilité du métro, est-ce que vous est venu en tête d'autres possibilités de thématiques?
Ah oui.
D'autres angles?
Plein. La première thématique sur laquelle on a travaillé, c'est sur l'itinérance. Avant de faire des portraits de personnes qui sont affectées par l'accessibilité, on avait fait réaliser plusieurs portraits de personnes vivant en situation d'itinérance. Donc ça, c'était une première série qu'on continue d'ailleurs. Et puis, un petit peu dans ce même thème-là, on a rencontré des auberges du cœur. Mm-hmm. En fait, une auberge du cœur en particulier qui est une maison d'hébergement, une résidence d'hébergement pour des jeunes sans-abri. Et donc, on a réalisé une série de portraits de ces jeunes-là, des intervenants qui travaillent aussi dans cette maison-là. Et puis c'est ça, on cherche à réaliser des séries qui peuvent aider à avoir une prise de conscience collective qu'on est une société, puis qu'on devrait peut-être moins vivre pour soi, puis plus peut-être vivre pour la société en général.
Ok, vous avez un billet là.
Un biais.
Dans le sens que vous cherchez quelque chose. Mais si quelqu'un est complètement, de droite, quelqu'un qui... Est-ce que vous allez quand même...
Oui, c'est ça ce que disait Thibault tantôt.
Ouais.
On est complètement apolitique. Donc, ouais.
J'entendais un biais quand même.
Nous, on a nos idées personnelles, mais elles ne sont jamais communiquées sur la page de Portrait de Montréal. Donc, peut-être quand on recherche, quand on fait des projets sur l'accessibilité ou l'itinérance, on peut peut-être ressentir ce biais-là, mais encore une fois, on laisse les gens s'exprimer et puis on n'a jamais d'avis.
Mais je restais là, je veux vraiment avoir quelques réponses encore.
Vous écoutez Accès libre.
Bon, on leur a donné 2 minutes de pause, puis j'ai l'impression que ça en aurait pris 10. Toujours avec Michael Temer.
Oui.
Ouais. Et Thibault Caron de Portrait Montréal. Je voulais savoir finalement, tiens, prenons les deux volets, même si vous ne les avez pas séparés. Qu'est-ce que l'on dit? Disons 3 mots-clés qui ressortent à l'égard des stations de métro dans les gens que vous avez interviewés.
Sur le métro particulièrement. Je dirais qu'un premier mot qui semble assez évident, ce serait investissement. Dans le sens que ça prendrait des investissements... non pas de la part de la STM, qui fait déjà beaucoup sa part, mais de peut-être au niveau gouvernemental. Peut-être,
les gens font la différence?
Beaucoup des gens qu'on a rencontrés, ils sont pas... les gens qu'on a rencontrés, en fait, sont pas venus chialer et se plaindre de la STM qui est pas accessible, ils sont conscients un petit peu de la situation, ils sont conscients du coût que ça prendrait de rendre accessibles les 68 stations ou les 59 restantes, en faisant le calcul rapidement. Mais par contre, ça prendrait quand même des investissements peut-être un petit peu plus conséquents. D'où est-ce que ces investissements venir? Comme on dit, on n'est pas apolitique, donc on ne se prononcera pas là-dessus. Ouais. Mais en tant que société, ça prendrait d'investir sur les personnes.
Deuxième mot?
Le deuxième mot sur le métro.
Sur le métro, ce serait peut-être le... ça va ensemble, mais la résilience et le courage, je dirais. Nous, c'est ce que ça nous a appris, là, toutes ces rencontres, c'est que c'est que souvent les gens ont l'habitude de leur situation, ne se plaignent pas, et puis trouvent que leurs vies sont, sont magnifiques au-delà de leurs leur problèmes de mobilité.
Est-ce que la résilience est un mot que vous utilisez pour résumer ou c'est vraiment un mot qu'ils utilisent?
C'est plutôt nous là qui
utilisons. Ok, d'accord.
Effectivement, ouais. Parce que, bah, un mot qui reviendrait, un mot clé qui revient souvent.
Et qui reviendrait souvent en fait, alors ce n'est pas un mot, mais je pense que c'est bah, je dirais perception. C'est changer la perception que nous, communs des mortels qui voyons des personnes handicapées un petit peu de loin, on devrait changer notre perception, la perception qu'on se fait de ces gens-là. Il y a plusieurs personnes moi, qui m'ont raconté, tu sais, quand c'est souvent du monde en fauteuil, qui me disent souvent quand j'attends quelqu'un dans la rue, puis que du coup je suis tout seul à un coin de rue en train d'attendre quelqu'un, il y a du monde qui s'arrête puis qui me donne de l'argent. Tu sais, je vais très bien dans la vie, j'ai pas
besoin.
Oui,
je l'ai vécu plus d'une fois.
Voilà. Donc, je pense qu'il y a un problème de perception. En tout cas, moi, là, je parle personnellement, mais j'ai appris tellement et je me suis enrichi tellement humainement à travers toutes ces rencontres-là. Et c'est certain que... Alors, je ne dis pas que je regardais les personnes handicapées avec pitié avant, loin de là, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je les regarderais avec un œil beaucoup plus... beaucoup moins biaisé, finalement, beaucoup moins comme si ils avaient une différence ou comme si on devrait les regarder différemment. Finalement, je me suis rendu compte que mais ils vivaient de la même manière que, ouais. que tout le monde vit. On a les mêmes, un petit peu, les mêmes peines, les mêmes joies.
Sur Montréal, globalement, disons, une bonne idée qui est peut-être revenue plus d'une fois?
Une bonne idée.
Ou qu'est-ce que les gens aiment de Montréal?
Ce que les gens aiment de Montréal...
Mon Dieu, rassurez-moi, ça a l'air compliqué.
Sa diversité, probablement. C'est ça qui transparaît dans notre page, c'est ce qu'on pense. C'est ce que les gens aiment, c'est découvrir tout un tas d'histoires qui viennent d'horizons très différents.
Okay.
J'imagine qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont mentionné l'ouverture d'esprit, la capacité de vivre pleinement qui on est, contrairement à d'autres destinations ou d'autres villes.
Oui, c'est vrai que ça, on l'a entendu plusieurs fois. À Montréal, tout était possible, finalement. C'est ça, il y a une photo qu'on a publiée récemment d'une fille qui joue de l'accordéon dans le métro, qui disait plus ou moins ça, là, que, c'est que c'est possible en se battant puis en le voulant vraiment.
Ouais. Bon, mais finissons sur une note positive. Donc, les gens peuvent aller sur votre page Facebook si jamais on pense qu'on a une histoire à raconter ou quelque chose à offrir pour ceux et celles qui veulent découvrir Montréal sous diverses facettes.
Oui, alors pour le spécifiquement pour le problème de l'accessibilité. Puis, je voudrais juste préciser, c'est qu'on ne cherche pas uniquement des personnes qui vivent avec un handicap. C'est un problème qui dépasse le handicap, l'accessibilité. On a eu beaucoup de mamans avec poussettes. On a eu des personnes qui ont dans leur entourage proche des personnes qui ont une mobilité réduite, parce que ça affecte aussi ces gens-là. Mm-hmm. Ça peut être quelqu'un qui voudrait voir ses grands-parents plus souvent, sauf que les grands-parents ne peuvent pas prendre le métro parce qu'il n'est pas accessible. C'est vraiment beaucoup plus large que juste des personnes handicapées. Donc si vous êtes affecté directement ou indirectement, de près ou de loin, par le manque d'accessibilité, dans le métro ou ailleurs, faites-nous signe.
En tout cas, on se rend compte que vous avez appris. Oui. Parce que vous avez mentionné des situations, effectivement, que plusieurs vivent, mais qui ne sont pas souvent véhiculées. Alors, c'est donc... le message passe dans la tête de Michaël Temer et Thibault Caron. Qui est votre troisième larron?
Samuel V. Rochelot.
D'accord. Merci, messieurs.
Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir invités.
Plaisir.
C'est Laure Durand, Madame Duchamp?
Bien sûr.
Bonjour, Laure.
Bonjour.
Vous travaillez avec Kéroul depuis combien de temps?
Ça fait un peu plus de 3 ans et demi. J'ai commencé en tant que stagiaire, puis je suis restée après.
Je détecte un accent du Midi. On vient d'en mettre deux dehors qui ont un accent également, disons, de l'autre côté du Grand Étang. Notre metteur en ondes en a un. Vous êtes Légion, ma foi.
Ben oui.
Vous êtes coordonnatrice de recherche et de développement chez Kérul.
C'est ça.
On me dit que depuis 1979, vous évaluez l'accessibilité. Ben, pas vous, là, mais
non,
on évalue l'accessibilité des établissements touristiques, culturels du Québec. Est-ce que c'est facile d'avoir accès à un établissement? Est-ce que vous êtes obligé de tirer l'oreille ou, au contraire, on vous appelle?
Je dirais qu'il y a un peu des deux. On travaille avec des associations touristiques sectorielles qui souhaitent justement prendre le virage accessibilité et développer l'accessibilité aux personnes handicapées, comme notamment la Fédération des pourvoiries, par exemple. Et il y en a où c'est plus nous qui allons les chercher, nous, on est l'interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme. Donc, ils nous donnent des subventions pour aller effectuer des évaluations un petit peu thématiques, comme par exemple, si on voit qu'il nous manque des restaurants ou s'il nous manque des hébergements dans certaines régions, mais ils nous donnent un certain budget. Puis là, on démarche les établissements touristiques pour voir s'ils ont la volonté de se faire évaluer. Puis, on a aussi des établissements individuels qui nous appellent au cas par cas, comme un chalet, un hôtel, un restaurant qui veut se rendre accessible puis qui nous contacte pour nous dire « j'aimerais être accessible, comment je peux le devenir? »
Lorsque vous faites le tour avec votre petit calepin, est-ce que le propriétaire, à chaque fois que vous prenez une note, présume que la facture augmente et on vous regarde avec crainte?
Non. On a informatisé nos grilles d'évaluation. Ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille sur iPad, donc j'avoue que ça facilite aussi, notre travail sur le terrain. Les entreprises qui nous appellent en général et qu'on va évaluer, parce qu'il faut se rappeler que c'est une démarche volontaire, on ne force personne. Donc, c'est les gens qui nous appellent ou quand on démarche qui souhaitent se faire évaluer par Kérul. Donc, ce sont souvent des établissements soit qui ont des petites modifications à faire, comme biseauter un seuil de porte, changer des poignées de porte, faire un dégagement sous le lavabo, soit c'est vraiment des entreprises, des établissements touristiques qui vont faire des rénovations et qui nous appellent avant de faire les rénovations pour nous dire « qu'est-ce que je dois faire pour me rendre accessible ?»
Ouais.
Donc, c'est souvent on va visiter des gens qui ont prévu et qui veulent accueillir ce type de clientèle-là.
J'espère que ça n'arrive pas trop souvent que les gens ont fait leur rénovation et appellent ensuite pour avoir une évaluation.
Ça arrive malheureusement. On a des établissements, et c'est sur le quoi on essaie de travailler actuellement, justement. On a certaines entreprises qui connaissent pas forcément Kérul ou qui le connaissent par après, puis qui nous appellent une fois que les travaux sont finis, puis on se bat avec eux parce que souvent, il y a la zone de transfert qui est pas aux normes, qui est trop restreinte, ou les portes sont pas assez larges, il y a eu des défauts, et on n'arrive pas à savoir au jour d'aujourd'hui si c'est la faute de l'architecte, du constructeur, de l'hôtelier.
Et c'est intéressant, Isabelle, que vous ameniez cette réalité-là, parce que hier, pas plus tard qu'hier, quelqu'un me disait « Ah, j'ai un ami qui est propriétaire de bar, et il m'a dit « Viens-t'en, on met le marteau, on défait la marche, on va rendre ce bar-là accessible. » Puis là, je lui disais « Peut-être qu'il est mieux de poser des questions avant, parce que ça va au-delà de vous risquez d'oublier certaines choses parce que vous n'êtes pas familier, puis tout à coup qu'on serait déçu à la fin parce que ça ne rencontrera pas les standards. » Donc, évidemment qu'on invite les gens à vous contacter avant, bien qu'on félicite l'initiative.
Mais nous, on essaye, parce qu'on est abonné à Tourisme Express, et via Tourisme Express, on voit un petit peu les établissements qui vont ouvrir. Et donc, on essaie de les contacter dès qu'on voit des nouvelles via le web, comme quoi un nouvel établissement fait des rénovations ou quoi. On les contacte en amont en leur disant, n'oubliez pas de penser à l'accessibilité.
Ouais.
Puis on est là pour vraiment pour aider. On n'est pas là pour taper sur les dos, on est là pour les aider dans leur démarche, puis faire en sorte que, justement, quitte à faire leur rénovation, vu qu'ils sont obligés d'avoir un 10% des chambres accessibles, faites-le bien. Ça ne coûtera pas plus cher.
Laure, qu'est-ce que ça prend pour être considéré ou certifié accessible chez Kérul?
Ça dépend des établissements parce qu'on établit, on évalue, on peut évaluer un hôtelier, un restaurant, on évalue aussi des musées. C'est vrai que pour, par exemple, un hôtel, il faut qu'il y ait une chambre accessible. Qu'est-ce que ça correspond? Ça veut dire qu'on puisse rentrer, aller à la réception pour pouvoir payer sa facture d'hôtel. ou d'auberge en fonction de là où on est. Puis après, il faut pouvoir aller jusqu'à la chambre, donc avoir des corridors de circulation, un ascenseur si besoin, si les chambres sont à l'étage. Puis quand on rentre dans la chambre, il faut qu'il y ait des espaces assez grands dans la chambre pour pouvoir faire une aire de manœuvre pour de au moins 1,5 mètre pour pouvoir faire un demi-tour sur soi-même. Le gros problème qu'on rencontre à l'heure actuelle avec les hôteliers, par exemple, c'est la hauteur des lits. C'est quelque chose qui n'est pas dans le code de construction, mais c'est quelque chose de très important parce qu'un lit trop haut, ben, c'est un obstacle pour une personne en situation de handicap. Donc la hauteur du lit est vraiment très important pour ce qui est de la chambre. Puis après, la salle de bain, qui peut correspondre aussi à une salle de toilette, j'ai envie de dire, c'est les zones de transfert à côté de la toilette, avoir une zone de transfert à côté de la toilette, des barres d'appui, que ce soit à côté de la toilette, dans le bain ou dans la douche, puis le dégagement au lavabo aussi, qui est très important.
Je remarque, ben allez-y Isabelle.
Mais en fait, c'est juste, il y a plusieurs personnes qui se posent la question, je me la fais poser souvent. Dans le code de construction des États-Unis, pour être considéré accessible, la chambre d'hôtel doit avoir une douche. Ici, au Québec, il n'y a pas de différence entre une douche et un bain pour pouvoir dire si la chambre est considérée comme une chambre d'hôtel accessible.
Non, il n'y a aucune norme dans le code de construction à l'heure actuelle. On essaie de travailler avec plusieurs groupes de personnes, de regroupements de personnes handicapées, comme avec la COFAN, par exemple, pour avoir des améliorations de notre code de construction. C'est important de rappeler que le code de construction, c'est vraiment un minimum à avoir. C'est pas l'excellence. Ouais. Comme on veut dire, si un hôtelier respecte le code de construction, il sera à peu près 1-2 étoiles pour correspondre aux étoiles. Mais pour aller plus loin, en ayant la hauteur des lits, en faisant une douche, par exemple, ben là, on arrive vers du 5 étoiles.
Donc, il peut y avoir du accessible, du partiellement accessible, du non accessible pour les personnes avec un handicap moteur. Déficience motrice, oui, c'est ça. Bon, et également, bon, handicap visuel, handicap... auditif. Je remarque par contre que, en tout cas, moi, sur mes petites feuilles ici, je remarque qu'on ne pense pas aux personnes de petite taille pour qui, bon, vous parliez de la hauteur du lit tantôt, il y a des préoccupations pour eux aussi, là.
Non, on peut pas tout faire. On essaie d'englober le plus grand nombre de personnes et de handicaps au possible. On n'a pas la déficience mentale non plus à l'heure actuelle, mais c'est vrai que... dans le code de construction, quand même, tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est toutes les commandes, tout doit être à moins de 1,2 mètre. Donc, c'est accessible pour une personne de petite taille comme pour un enfant aussi. Puis, c'est ce qu'on dit aussi à un hôtelier, dans le sens, quand on veut lui prouver que ça ne sert pas qu'aux personnes handicapées, on lui dit ben ça peut servir pour un enfant, ça peut servir aussi pour une personne qui vient avec une poussette, avec sa valise, qui est, par exemple, une rampe d'accès au lieu des marches. De dire, c'est une accessibilité pour tous, nous, qu'on cherche à avoir, dans le sens, c'est utile pour les personnes handicapées, mais ça va plus loin, et c'est des services qui vont aider votre clientèle aussi.
Puis j'imagine que vous faites comme je faisais à l'époque, quand vous faites des évaluations ou des services conseils, vous leur dites, dans un monde idéal, vous avez quand même une variété. Si vous avez 10 chambres, bien, vous n'êtes pas obligé de les faire toutes exactement pareilles. Vous pouvez changer soit les hauteurs de lit dans une chambre ou dans l'autre, ou ça peut être quelques chambres avec des bains, quelques chambres avec des douches, etc. Donc, ça peut couvrir une plus grande nombre une plus grande variété de clientèle.
Oui.
Ben, je suis d'accord avec vous, Isabelle, tant que la chambre vue sur la mer soit accessible aux personnes aveugles. Après ça, les autres, pour vu sur le stationnement, vous vous arrangerez. Mais tu sais, dans le sens que je comprends ce que vous dites, mais il y a peut-être des chambres qui sont quand même, tu sais, au niveau du positionnement, au niveau de la... Laure, en terminant, je viens d'oublier ma question, qui était bonne, c'est dommage.
Peut-être parce que vous parlez justement des personnes avec une déficience visuelle. Nous, c'est vraiment des services qu'on offre. C'est pas une accessibilité dans le sens, c'est dire qu'il y a certains aménagements qui peuvent faciliter pour les personnes avec une déficience visuelle ou auditive, mais c'est pas une accessibilité totale. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on nous demande, puis qu'il est important de rappeler, c'est plus des services comme un réveil matin qui vibre sous l'oreiller, des choses comme ça. C'est des petits services qui peuvent être offerts à ces personnes-là.
Il y a des gens qui pensent à ça?
Oui, il y a des hôteliers.
Wow. Certainement.
Mais là, je peux traîner mon réveil matin tout de même. Wow!
Excuse-moi, allez-y là.
Non, c'est bon, j'ai fini.
Il y a des kits qui existent et on conseille tout le temps aux hôteliers de l'avoir, d'avoir un minimum de ce qui pourrait être rendre service à une personne qui a une déficience visuelle ou auditive. Et plusieurs le font, sont très heureux de le faire une fois qu'on le mentionne.
En terminant, existe-t-il des programmes pour assister financièrement les propriétaires qui veulent justement apporter des modifications pour se rendre plus accessible?
Il y a le crédit d'impôt. Dans le sens, tous les travaux que vous allez faire peuvent être déductibles de vos impôts. À l'heure actuelle, c'est essentiellement le seul. Il n'y a pas encore de subvention. On essaie d'aller de l'avant avec ça, mais il n'y a pas encore de subvention, mais tout est déductible de vos impôts. Donc, c'est quand même un grand avantage.
Mais ça, c'est vrai aussi si, j'imagine, on rallonge avec une verrière, là.
Oui.
Inaccessible.
Oui.
Ouais. Donc, notre gouvernement valorise autant du inaccessible que du accessible au niveau des aides.
Pour l'instant, oui.
Ouais.
Pour l'instant, oui, mais on travaille fort là-dessus et c'est un travail de longue haleine.
Ouais, merci de le faire, Laure.
Ben avec plaisir.
Laure Durand, qui, elle, est coordonnatrice de recherche et développement du côté de chez Kéroul. On s'en va à Gatineau.
Merci.
Bye-bye.
Bonjour, Cathy Hamilton.
Oui.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Vous êtes agente en accessibilité universelle. Premièrement, je trouve que c'est un très beau titre. Ce serait souhaitable que toutes les villes aient une Cathy Hamilton agente d'accessibilité universelle. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ce rôle?
Ça fait déjà 7 ans.
Donc, vous étiez là à l'origine?
Oui, ben à l'origine, avant la fusion des municipalités, Hall, l'ancienne ville de Hall, depuis 1995. Cinq avaient une politique d'accessibilité universelle.
Voyons
déjà.
Donc.
Puis ben avec la fusion, à ce moment, il y a une dizaine d'années, environ en 2002, ils ont fusionné les différentes villes de l'Outaouais, ben en tout cas à Gatineau. Et puis ben c'est ça, dès 2007, ils ont engagé une agente d'accessibilité universelle pour mettre en place le plan d'action pour l'intégration des personnes handicapées, et puis se doter d'un cadre de référence d'accessibilité universelle pour aller plus loin, justement, pour ce qui est de l'accessibilité aux édifices et autres services de la ville de Gatineau.
Oui, parce que ça inclut autant les infrastructures que les services.
C'est tout. Oui, c'est ça. Ça va même jusqu'à dans les activités de loisirs, de sport. C'est vraiment l'intégration à tous les niveaux.
Et vos partenaires là-dedans, c'est les entreprises, c'est le maire, c'est qui sont vos principaux partenaires?
Bien, on a un comité de suivi dès 2007 aussi, on a mis en place le comité de suivi pour mettre à jour le plan d'action et aussi pour m'aider à faire la mise en œuvre parce que je ne fais pas tout seul. J'ai des partenaires des centres de réadaptation physique, du centre de réadaptation aussi pour la déficience intellectuelle. On a le C3S qui nous aide aussi dans nos démarches. Et aussi, on a quand même les principaux organismes du milieu qui desservent les clientèles, personnes sourdes ou avec un handicap visuel, physique. On couvre vraiment avec ce comité de suivi-là les différents handicaps. Et puis, ça nous aide vraiment à mieux comprendre les obstacles que rencontrent ces personnes-là afin de mettre en œuvre vraiment des moyens, des solutions pour vraiment qu'ils intègrent, comme vous et moi, la société dans laquelle on vit.
Et j'ai entendu beaucoup tous les noms d'organismes et de représentants de personnes avec différents types de limitations. Mais est-ce qu'au comité de suivi, vous avez également des gens, des entreprises ou des gens qui sont responsables des endroits qu'on veut qu'ils soient accessibles?
Oui, c'est ça. Nous, on a quand même les principaux partenaires du milieu. Puis aussi, on a mis en place aussi un comité interservice à l'interne qui fait en sorte que chaque, pour éviter qu'on travaille en silo, justement, que chaque acteur du changement, que ce soit pour les édifices, que ce soit pour les sports, les activités, que tout le monde soit autour de la table pour mieux faire en sorte que tout est vraiment adapté pour les personnes qui veulent vraiment participer à notre vie citoyenne.
Et l'entreprise privée, ben c'est ça. Cette année, on a mis en place aussi un projet pilote. Là, on est en train de voir ce qu'on peut faire pour rendre aussi les commerces accessibles. Là, à ce moment-là, on va travailler avec les différents partenaires du milieu dans le privé. Quand on dit là qu'une personne en fauteuil roulant peut même pas aller se faire couper les cheveux parce que l'endroit est pas accessible, là, on a un problème aussi. Donc, la ville se responsabilise aussi avec ses partenaires pour rendre les endroits aussi...
Concrètement, Cathy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça prend combien de temps?
Concrètement avec les commerces?
Oui.
Ben là, c'est ça. On est en train de faire de mettre en place une certification pour les commerces. On travaille avec notre service des communications pour aussi mettre en place, monter une pochette d'informations. C'est beaucoup de sensibilisation, je peux vous dire. Je pense que tout part de la sensibilisation, que ce soit ici avec les employés, mais aussi avec les principaux partenaires, comme les commerçants. C'est d'aller les voir, c'est d'aller sur place avec un petit comité formé de personnes handicapées, aller le sensibiliser, mais toujours avec une attitude positive pour vraiment le sensibiliser aux obstacles qu'une personne handicapée rencontre par rapport dans un restaurant. Comme par exemple, dans un restaurant, on entre, c'est bien beau, tout est accessible, mais si la salle de bain n'est pas accessible,
faut se laver les mains.
Ça peut même aller jusqu'à mettre les menus en braille pour les personnes non-voyantes. Ça peut aller aussi à laisser plus d'espace aussi dans l'accueil, même pour les personnes âgées avec un déambulateur ou une marchette, communément appelée une marchette.
Est-ce que les programmes d'incitation, est-ce que la Ville a mis une enveloppe monétaire pour inciter les commerçants, pour les aider?
Pas encore. Okay. Il y a d'autres villes au Québec qui l'ont fait, ça, mais nous, c'est sûr par sensibiliser la population. Puis après ça, si on prend, on va voir aussi c'est quoi les besoins des commerçants, si c'est vraiment en demande, donc là, on pourra voir à l'interne ici qu'est-ce qu'on peut faire.
Mais donc, si je comprends bien, vous avez vu d'abord que ça fonctionnait bien du côté des services et comme des centres de loisirs, etc. Puis une fois que vous avez vu que ça fonctionnait bien là, c'est là où vous avez décidé de vous attarder plutôt... au commerce.
Oui, c'est ça, parce que le besoin est là aussi. Là. Les gens aussi ont le droit d'aller au restaurant, ont le droit d'aller chez un dentiste, ont le droit d'aller chez... Tu sais, c'est sûr qu'on est quand même... nos principaux citoyens sont dans la défense de droits aussi pour ça, puis sont vraiment associés à des organismes communautaires dans la défense de droits, mais on veut vraiment les faire participer au changement aussi, avec en même titre que nous, les employés de la ville, dans ces démarches-là.
Sur le site web de l'OPHQ, lorsqu'on a le petit vidéo des récipiendaires des prix, vous avez mentionné une collaboration avec d'abord Victoriaville, mais éventuellement avec maintenant, si je me souviens bien, 26 autres municipalités?
Ah oui, c'est ça. Depuis 2008, on a mis en place la journée provinciale des municipalités accessibles. Le Gatineau est fondatrice de cette journée-là en collaboration avec Victoriaville pour mieux échanger entre nous nos bons coups et aussi nos besoins entre villes. Puis,
Réunion qui avait lieu à Saint-Eustache en octobre.
Au mois d'octobre dernier, le 30 octobre dernier, ça a eu lieu à Saint-Eustache. Puis on a commencé la première année à Victoriaville, on avait 22 villes participantes. À Saint-Eustache, on avait 48 villes qui ont participé. Donc, on voit qu'il y a un besoin aussi des villes de s'ouvrir vers les besoins des personnes handicapées afin de mieux les desservir. C'est sûr que... Puis quand on parle d'accessibilité aux personnes handicapées, c'est sûr qu'on vise aussi toutes les familles, toutes les personnes qui ont vraiment besoin aussi d'accessibilité au lieu et au bâtiment.
Cathy Hamilton, bon, vous qui êtes agente en accessibilité universelle pour la ville de Gatineau, vous êtes dans une drôle de situation où il y a une frontière provinciale, mais en même temps, Ottawa-Gatineau est une région. Comment être à voisine d'Ottawa, qui est quand même la capitale nationale, peut vous aider, vous donner des idées ou peut-être même travailler conjointement, je ne sais pas?
Moi, c'est ça. Nous, on s'en inspire beaucoup d'Ottawa, justement, parce que c'est la capitale fédérale. Et puis aussi, la loi en Ontario est beaucoup plus avancée, va beaucoup plus loin que la loi du Québec. Donc, nous, ça fait comme un fer de lance aussi d'aller chercher des moyens, des outils aussi pour s'en inspirer, pour arriver aussi je peux dire, à équilibrer là, les deux villes, une à côté de l'autre. Puis, je peux vous dire, par exemple, que c'est un petit peu difficile dans le sens que, oui, on voit qu'ils ont beaucoup d'avancées. Je peux vous dire qu'ils ont comme 25 ans en avance sur nous. Mais ça nous donne quand même un bon aperçu de jusqu'où on peut aller. Puis comment on peut justement mettre de la pression aussi auprès de nos commerçants et même à la ville ici pour vraiment arriver à avoir le même niveau de performance qu'eux autres. Là. C'est
mais ça doit être quand même assez frustrant là, de voir que juste à côté, si je vivais là, ce serait tellement plus facile.
Ben, vous avez raison, mais dans un autre sens, moi je me dis, c'est vrai qu'on travaille à côté, mais aussi on s'en inspire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'édifices hein, de fédéral qui sont installés à Gatineau ou à Hull, dans le secteur de Hull. Puis c'est ces personnes handicapées là qui viennent ici travailler, ben c'est sûr qu'ils ont les mêmes besoins que quand ils sont en Ontario. Donc ça nous donne quand même, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi, mais de la pression. Justement, puis c'est positif pour arriver à dire, ah ben oui, c'est vrai, là, on a besoin de boutons poussoirs, puis
ben, tous les éléments sont bons pour
c'est comme les feux sonores, c'est la même chose aussi, là.
Tous les éléments sont bons pour faire avancer la chose. Merci beaucoup, Cathy Hamilton.
Merci.
Cathy, qui est agente en accessibilité universelle. Bon, vous et moi, on va souhaiter bonne fête la semaine prochaine parce qu'on va se voir durant la pause, mais on veut quand même que les auditeurs passent des belles fêtes.
Absolument.
Et ben, on sera là en 2015. Merci beaucoup à Rémi, M. Hermoso, Lynn Gargano à la recherche. Isabelle, merci d'avoir passé ce vendredi avec moi.
Un bonheur, comme d'habitude.